merci pour votre intervention très, très complète. Moi, je voulais dire, finalement, il y a une grosse responsabilité des institutions sur l'absence de réforme au niveau du collège, finalement.
Oui, oui. Alors, c'était le... Ça a toujours, si vous voulez, été un débat important parce que la valorisation de la voie professionnelle pourrait gagner à ce que, au collège, on développe aussi un peu plus l'enseignement technologique. Or, si on veut développer l'enseignement technologique au collège, ben, évidemment, on se heurte à beaucoup de tensions. Le collège continue encore à fonctionner, surtout pour le lycée général et technologique. Il y a quelque chose de très frappant, c'est que l'appréciation, les enseignants de collège, effectivement, ils ont affaire, ils ont à composer avec un public hétérogène, donc le métier n'est pas facile. Mais en général, les préoccupations des enseignants, c'est de savoir ce que deviennent les élèves quand ils vont au lycée général et technologique, beaucoup plus que ce qu'ils deviennent quand ils vont au lycée professionnel. Et donc, il y a à la fois l'enseignement de la technologie qui est minoré et qui fait que l'élève... comprend très vite quand il arrive au collège que toutes les matières ne se valent pas. Et donc, ça veut dire qu'il devient aussi un stratège. Hein. Je connais des élèves qui disent, bah, finalement, la technologie, ça prend qu'une heure ou une heure et demie, il y a des matières plus importantes que d'autres. Or, on n'arrête pas dans l'institution scolaire de dire que toutes les matières se valent. Donc il y a effectivement cet enjeu aussi. Et sans compter le fait que, comme je disais tout à l'heure, dans un emploi du temps d'un élève moyen, quelle que soit la filière, l'emploi du temps, c'est il a maximum un tiers de pratique professionnelle. Le reste, c'est l'école, c'est les savoirs, la technologie, etc.
Oui, la rénovation et le passage au bac pro 3 ans, parce que je pense que cette rénovation a quand même amené un certain nombre d'évolutions qui, j'espère, vont dans le bon sens, mais bon, ça, c'est un point de vue à prendre, je ne sais pas. Après, une petite remarque quand même depuis le début de ce séminaire qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on parle toujours de stage, alors que dans la formation au lycée professionnel, maintenant, on parle de période de formation en milieu professionnel, et ce n'est pas anodin si on les appelle plus stages, parce qu'on est sur une vraie complémentarité de formation, et l'élève n'apprend plus tout en lycée professionnel pour aller vérifier que ça se passe comme ça en entreprise. On a bien des partenariats étroits, logiquement, entre le lieu de formation et l'entreprise qui accueille. Et je voulais juste faire cette précision parce que ça me paraît quand même fondamental dans le parcours en lycée professionnel. Après, il y a une deuxième remarque que je voulais faire par rapport justement à la difficulté des néo-enseignants qui sont recrutés à un niveau maintenant de master. On retrouve, vous avez évoqué deux difficultés qui sont mises à jour avec ce niveau de recrutement. Moi, j'en vois aussi une troisième, c'est que ces personnes-là ont évidemment les contenus nécessaires puisqu'ils ont réussi les concours, etc. Mais ils n'ont comme regard sur les pratiques pédagogiques que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes au collège et au lycée et à l'université. Et c'est-à-dire qu'on est essentiellement dans ce cadre-là, dans ce que j'appelle une entrée par les savoirs, puisque la formation en collège et en lycée a cet objectif justement d'accumuler un maximum de savoir pour permettre à ces gens d'arriver à un niveau de qualification assez élevé. Et en lycée professionnel, on ne raisonne plus, on essaye de ne pas raisonner essentiellement avec cette entrée par les savoirs, même si elle est bien entendu importante, mais vous l'avez dit d'ailleurs très clairement, on essaye de donner du sens et donc de placer les élèves dans des situations les plus concrètes possibles. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté que l'on rencontre maintenant avec les néo-enseignants qui essayent de s'approprier cette entrée différente de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant qu'étudiants. Et puis la dernière remarque que je voulais faire, c'est par rapport à... vous avez dit tout à l'heure, on demande aux enseignants de construire les outils pour atteindre ses objectifs de formation. Et donc, chaque jour, ils sont obligés de réinventer le métier d'enseignant. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et je crois que c'est une démarche qui est bien entrée dans les lycées professionnels, où les enseignants travaillent sur des livrets de compétences, travaillent sur des livrets de suivi, essayent de construire des outils les plus concrets possibles pour justement établir ce partenariat avec les entreprises et pour faire en sorte que cette formation soit bien placée sur les deux niveaux. Donc, je voulais parler de tout ça parce que tout ce que vous avez abordé fait référence, je dirais, un petit peu à une période antérieure à tout ce qui a été mis en place depuis le cadre de la rénovation. Alors je ne sais pas si tout le monde ici partage ce que je suis en train de dire, mais je crois que depuis qu'on est passé au bac 3 ans, on a quand même eu une transformation des pratiques pédagogiques qui me semble aller dans le sens de ce que vous vouliez mettre en avant, quoi. Voilà.
Alors, je vais répondre effectivement. Alors, première chose, c'est que quand la réforme du bac a été mise en œuvre, ma première réaction était de dire, effectivement, est-ce qu'on va parvenir à former autant de bacheliers professionnels que de sortants du BEP? Et donc le risque, c'était de se dire, est-ce qu'en mettant en place une réforme, est-ce que on risque pas de laisser de côté une partie des élèves? C'est ça la première observation, parce que on savait à l'avance que les élèves qui faisaient un bac professionnel auparavant, c'était 40%, même un peu en dessous, des titulaires du BEP. Et donc est venu, quand vous avez suivi, vous l'avez vu, est venu effectivement cette idée de notion de certification intermédiaire, parce que on s'est dit, attention, il risque d'y avoir des sortants sans diplôme. Non, ce qu'il faut relever, c'est que effectivement, la réforme induit un changement. Elle induit un changement d'abord parce que il faut préparer en 3 ans ce qu'on préparait en 4 ans. Elle induit un changement d'abord aussi parce que il faut renforcer les périodes de stage. Alors, je vais y revenir après sur les périodes de stage en entreprise, de façon à professionnaliser un peu plus le bac professionnel, tout en ouvrant la voie vers une possible poursuite d'études. C'est un petit peu ça. Donc ça veut dire qu'on est toujours, si vous voulez, dans des effets contradictoires. De là à dire que la réforme a transformé les pratiques pédagogiques, il faut voir. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est comment, et c'est ça une question, c'est comment une réforme oblige finalement à l'invention. Comment on se l'approprie différemment en fonction des établissements? Je n'ai pas parlé de ce point. Mais on fait des observations, on s'aperçoit effectivement que tous les établissements ne donnent pas la même interprétation. D'ailleurs, on a vu hier finalement un débat là-dessus. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de période de formation au milieu professionnel, pour la petite histoire, ça date d'un texte de 1979. C'est effectivement le texte qui indique, voilà, les élèves doivent se former par ces périodes, qu'on a appelé d'ailleurs stage au départ, qui après sont devenus période de formation en milieu professionnel. Et pourquoi on utilise le terme période de formation en milieu professionnel? Nous, par commodité, on dit des stages en entreprise. C'est parce que dans les années 70, ont été mis en place des stages de lutte contre le chômage. Il y a eu les fameux pactes nationaux pour l'emploi. Et donc, l'ambiguïté risquait risquait d'avoir une ambiguïté entre des stages pour des jeunes qui sont sans emploi et des stages pour des élèves qui sont déjà scolarisés. Et c'est d'ailleurs, vous avez raison de souligner un peu ce point, parce qu'en fait, les périodes de stage ont été aussi développées, périodes de formation ont été aussi développées sous l'influence des milieux professionnels pour dire, nous confions la formation professionnelle à l'éducation nationale, mais en contrepartie, il faut aussi que le lycée professionnel s'ouvre sur les milieux professionnels, qui d'ailleurs ont fait une des originalités par rapport à d'autres structures, puisque les formations sont construites aussi conjointement avec les milieux professionnels, tout en sachant là encore que les milieux professionnels ne pèsent pas de la même manière en fonction des structures. Par exemple, les grandes entreprises pèsent davantage sur les référentiels de compétences et référentiels de formation que les petites structures. Vous prenez l'hôtellerie, c'est pareil, c'est-à-dire les grands groupes hôteliers pèsent davantage sur la définition des contenus, ce qui fait que parfois les employeurs, quand ils reçoivent des élèves, vous disent « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que dans les référentiels, on ne parle pas de tel ou tel point qui me concerne ?» Et donc, c'est important aussi, je pense, par rapport à la formation des nouveaux enseignants, c'est important aussi qu'ils comprennent comment s'élaborent ces programmes qu'on a toujours tendance un peu à mystifier, comme si c'était des programmes qui tombent du ciel un peu ex nihilo.
Oui, alors dans le sommaire, il m'avait semblé avoir vu que vous vouliez nous parler de l'évolution du lycée professionnel, de l'avenir en tout cas.
Oui.
Et si tout le monde est d'accord, j'aimerais bien vous écouter pendant 10 minutes.
J'ai le temps, je peux. Hein? Alors, sur l'avenir du lycée professionnel, non, j'ai dit, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Je vois, par rapport à l'avenir, c'est que je voulais insister sur le fait que le lycée professionnel devient une voie de réussite dès lors qu'il permet d'ouvrir des horizons aux élèves. Hein, c'est-à-dire, en gros, la poursuite d'études à l'issue du lycée professionnel est incontestablement un élément important hein, pour la valorisation de la filière. Le deuxième élément, quand on parle notamment des enjeux, j'ai parlé de la formation des enseignants, c'est aussi le fait que le lycée professionnel, dans la mesure où il devient un peu concurrencé par l'apprentissage, par l'alternance, si vous avez suivi l'actualité, puisqu'on dit, pour la énième fois, j'ai envie de dire, il faut multiplier, développer l'apprentissage en alternance, l'argument qui est avancé, c'est de dire les apprentis ont plus de chances de trouver un emploi que les élèves sortant du lycée professionnel. Cet argument, il est contredit par les statistiques qui sont produites d'ailleurs par le ministère du Travail et qui montrent que sur le court terme, évidemment, si vous prenez les 7 mois de l'enquête du CEREC, l'insertion des jeunes, elle est meilleure quand ils font un apprentissage. Mais on oublie de dire que c'est l'apprentissage, c'est quasiment un quasi-pré-recrutement. Enfin, c'est finalement une sorte de pré-recrutement. Les enquêtes du CEREC montrent qu'au bout de par exemple, sur une durée de 15 mois, les courbes se rejoignent entre les sortants du lycée professionnel et les sortants de l'apprentissage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, c'est aussi, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, c'est aussi d'être très vigilant vis-à-vis de la critique que certains établissements scolaires ou certains enseignants énoncent vis-à-vis des milieux professionnels. Hein. Par exemple, j'étais tombé sur un texte d'un syndicat de l'enseignement technique qui disait « Attention, nous ne sommes pas là pour former au milieu professionnel ». Il y a quand même des tensions. Donc ça veut dire « Nous sommes là aussi pour former à la culture et l'émancipation ». Très bien. Mais il y a aussi la question de l'insertion professionnelle. Donc comment on saisit de la question de l'emploi tout en étant aussi dans une institution scolaire qui explique aussi un peu cette vigilance. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de la comparaison entre les formations proposées dans les lycées professionnels et les formations proposées dans les CFA, ben ça veut dire que là, il y a quand même des enjeux. Qui est-ce qui ouvre les formations? Qui est-ce qui autorise les formations les plus sélectives qui sont proposées par les CFA, les moins sélectives par les lycées professionnels? Attention à ce que le lycée professionnel ne soit pas que le lieu où on forme, finalement, à des formations qui sont, entre guillemets, je vais être un peu sévère, finalement, des formations qui sont un peu sans qualité sur le marché du travail. Voilà. Donc c'est cet enjeu-là que je voulais aussi avancer. Et donc l'autre élément, ben, on aura des choses sur lesquelles on travaillera en atelier qui sont finalement sur comment on lutte contre l'absentéisme, comment aussi on peut former les futurs enseignants, qui est quand même un enjeu de taille.
Oui, je voulais vous remercier pour cette intervention parce que pour moi, elle a été très formatrice. Dans la mesure où elle permet de mieux comprendre le fonctionnement de ce qui se passe dans les lycées professionnels et également de cibler les vrais problèmes qu'il y a à résoudre. Alors ma question est la suivante. S'agissant des enseignants, vous êtes appuyé sur du déclaratif. Sachant que sur le déclaratif des enseignants, ils font passer bien sûr leur vécu, leurs aspirations et également une certaine reconnaissance qu'ils cherchent à travers leurs réponses. Et ma question est la suivante. Comment fait-on ou arrive-t-on à démêler un peu, bien que d'un point de vue statistique, les réponses synthétiques sont certainement représentatives, mais comment fait-on pour démêler un peu le bon grain? Je prends un exemple précis sur le passage en bac pro 3 ans, par exemple. Au niveau des collègues qui étaient très impliqués déjà en bac pro ou en BEP, au niveau de collègues même qui étaient en CAP également, ce passage s'est fait sans problème et avec une adaptation de leur stratégie quasi sans problème. Par contre, il y a une grande marge, alors ça dépend aussi des spécialités, de collègues qui ont toujours assuré un enseignement en CAP et lorsqu'il a fallu passer d'une année sur l'autre quasiment à assurer un enseignement en bac pro, on a vu par exemple des stratégies d'évitement, c'est-à-dire que ce qu'on a vu après, c'est que ces collègues-là, eh bien, dans la mesure où la formation a été aussi déficiente, ça il faut le dire, ont continué à enseigner le contenu du CAP en bac pro, vous voyez. Et donc ça s'est fait un peu de façon naturelle comme ça, c'est pour cela que je voulais un peu contextualiser ma question.
Oui, alors, question importante, c'est-à-dire, au fond, comment on fait d'abord pour démêler ce qui relève d'un regard subjectif de ce qui relève d'une pratique effective. J'ai eu l'occasion, alors je n'ai pas insisté un peu là-dessus, sur le plan méthodologique, d'aller voir un peu ce qui se fait dans les classes, hein, et voir un peu ce qui se fait dans les ateliers, et de faire des entretiens avec des enseignants observés. Hein. Du coup, effectivement, ça permet de faire un lien entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein. C'est-à-dire, bon, tout à l'heure, vous avez fait telle ou telle chose. Est-ce que tu peux m'expliquer, ou tu as fait telle ou telle chose, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'est déroulé, pourquoi avoir fait ce choix. Donc, en fait, il y a de l'explicitation autour de la pratique, mais ça ne révèle pas les raisons du choix. Donc, du coup, c'est là où intervient effectivement le parcours biographique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des enseignants, face aux mêmes élèves, face aux mêmes programmes, développent des pratiques pédagogiques différentes. Et donc là, on peut mettre en évidence qu'il y a l'influence aussi de la trajectoire biographique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, notamment de ces parcours professionnels, parcours scolaires. Hein. Par exemple, il y a des élèves, il y a des enseignants qui s'inspirent de leur propre modèle. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. Ils ont eu comme modèle leur propre parcours scolaire et disent finalement... Je découvre au lycée professionnel que ça n'est pas comme ça qu'ils vont enseigner, qu'il faut plutôt partir de l'expérience pour faire un peu de théorie. Donc il y a une sorte de conversion de sa propre biographie pour dire, voilà, il faut travailler autrement. Bon, donc ça, si vous voulez, on part d'abord de la confrontation de ce que disent les enseignants et ce qu'ils font. Mais il y a une autre façon de faire, que j'ai aussi utilisée, que j'utilise dans toutes mes recherches, même sur d'autres sujets actuellement, c'est de confronter ce que disent les élèves et ce que disent les enseignants. Et quand vous confrontez ce que disent les élèves, vous faites des recoupements et vous apercevez qu'il y a des pratiques régulières. C'est ce qui permet de dégager tout ce discours dont je parlais tout à l'heure sur la pédagogie du concret, hein, j'ai pas détaillé. C'est cette idée aussi de dire, on va partir d'exemples qui parlent aux élèves pour faire de la théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité morale? Eh bien, je vais dire aux élèves qui font, je sais qu'ils sont supporters, alors ici c'est plutôt le Racing Club de Lyon, mais c'est Racing Club de Lens, eh bien, je vais partir d'un exemple très concret, et ça va leur parler de façon à faire quelque chose de plus général, d'un peu plus théorique. Donc, c'est ces bricolages, d'une certaine manière, ces inventions, qui sont extrêmement, vous n'avez pas ce genre d'informations dans les référentiels, vous le voyez pas, mais c'est ça. Comment je fais, dès lors que j'ai des référentiels, pour faire un lien entre ce que les élèves maîtrise, plus ou moins, et ce que les contenus me disent de faire. Vous voyez, donc c'est un peu cette dimension. Sur l'autre élément que je voulais dire, c'est que les pratiques pédagogiques concernant les enseignants, sur l'idée du CAP, alors c'est un exemple très intéressant, parce que du coup, ça veut dire que la réforme est venue rapidement, donc les individus n'étaient pas forcément prêts à s'engager. Donc ça pose aussi une autre question qu'on connaît bien en sociologie des organisations, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire, j'ai été habitué à faire ça et en même temps, on me demande de travailler autrement parce que les référentiels sont très prescriptifs. Est-ce que je suis capable de... Et donc ça pose aussi une autre question qui est celle de la légitimité des PLP. Je ne l'ai pas développé tout à l'heure. C'est que tous les PLP ne se sentent pas forcément ayant la même légitimité par rapport à des enseignements à des niveaux différents. Il y a des PLP qui ont enseigné dans des CAP. Donc c'est aussi l'importance de la formation continue. Et je me souviens, un exemple très très aussi intéressant, je me souviens d'un professeur, c'était de à l'époque où il y avait, c'était il y a trois ans, donc c'était le bac professionnel PSPA, enfin pilotage système mécanique. Bon. Et donc j'ai découvert, il enseignait surtout à des élèves de CAP BEP, et dans le lycée professionnel, il m'a dit dans l'entretien, ah moi je n'enseigne pas au bac pro parce que les bac pro c'est pour les autres. J'ai dit, c'est qui pour les autres? Les autres, c'est les PLP qui ont été recrutés en sortant d'université. Et je découvre au sein du lycée professionnel une hiérarchie au sein du lycée professionnel, c'est-à-dire informelle, qui conduit à confier aux enseignants, je dis pas qu'ils n'ont pas les compétences, mais on va leur confier d'enseigner à un type public, donc ce qui les empêche, si vous voulez, d'être un peu plus légitimes par rapport à former à des niveaux plus élevés. Et donc ça, évidemment, ça interroge. Et d'ailleurs, c'était un des rares enseignants qui amenait des exercices à ses élèves en disant, jamais des exercices sans avoir trouvé la solution chez moi, de façon à leur montrer que je peux aussi être en difficulté quand je résous un problème.
Oui, ce sera plus une remarque, mais vous pourrez réagir à ma remarque. Une question pour rebondir sur ce qui a été dit par la collègue tout à l'heure. A priori, la réforme du bac pro en 3 ans, moi j'y suis favorable. En particulier sur la part d'autonomie qui est donnée aux établissements, que ce soit sur l'accompagnement personnalisé, sur le GLS, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie part de liberté pédagogique qui est ouverte, qu'il va falloir qu'on assume. Ceci étant, moi, je note quand même au moins 3 ambiguïtés, dans cette réforme. La première ambiguïté, on l'a vu avec la paix, hein, 2 heures par classe et 2 heures par élève. Comment on fait? Comment on peut faire de l'accompagnement personnalisé? La deuxième ambiguïté, c'est sur les PFMP. On part du principe que toutes les entreprises seront formatrices. Hein. Alors c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, les grands groupes peuvent se permettre effectivement de mettre des tuteurs qui encadrent les élèves et qui font de la formation et qui connaissent les référentiels. Les petites entreprises et les artisans, bon, comment font-ils? Et puis la troisième ambiguïté, c'est sur le passage au BTS, avec des discours parfois contradictoires des inspecteurs, certains disant que le bac pro doit être orienté de préférence sur la vie active, et d'autres laissant entendre que c'est la porte verte sur les BTS. Donc il y a au moins 3 ambiguïtés dans cette réforme qui ne sont pas levées quand on entend les inspecteurs. Et même dans un même établissement, l'inspecteur de telle spécialité ne dira pas la même chose que l'inspecteur d'une autre spécialité. Donc je trouve que ces ambiguïtés, c'est vraiment dommage par rapport à cette réforme.
Une remarque, j'ai entendu les mots CDI il y a 2 jours, l'expression marché du travail. Or, quand on écoute les jeunes, certains ont un tout autre projet. C'est un projet d'entrepreneuriat, c'est-à-dire, moi demain, je serai mon propre patron. Seul ou avec une équipe, et comment on accompagne ces jeunes-là, parce que il y a quand même une représentation au sein de l'institution qui est très formatée salarié. Insertion professionnelle, c'est forcément salarié, alors que c'est pas ça du tout.
J'aurais une question, s'il vous plaît.
Je répondrai après.
J'aurais une question toute simple. Bon nombre de PLP se plaignent des différences de niveau, leurs élèves arrivés en seconde. Ça n'a échappé à personne. Il a été mis en place en 2006 le socle commun de connaissances et de compétences pour les élèves en fin de troisième. Comment on peut expliquer cette différence de niveau puisque ce système a été mis en place depuis 2006 En fait, on a répondu à l'interrogation de M. Ferry, il fut une époque. On apprend aux élèves ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. C'est un peu ça.
Bon, ben je vais répondre un peu aux deux questions qui sont finalement deux remarques ou deux observations. Sur l'entreprise, je pense que l'institution scolaire, elle a souvent quand même historiquement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'intégration de l'enseignement professionnel à l'éducation nationale, elle a souvent fonctionné comme une sorte de sanctuaire. C'est-à-dire quelque chose dans lequel on est un peu protégé par rapport à l'environnement. Et quand je pointais le paradoxe qu'on a vis-à-vis des entreprises dans le discours, c'est aussi celui-là, c'est-à-dire à la fois des lieux de formation, mais en même temps des lieux de domination. Hein, je résume, hein, par exemple, il y a un discours qu'on peut entendre sur l'exploitation, sur les contraintes, etc. Je pense que justement l'idée de dire est-ce que le lycée professionnel peut former des futurs entrepreneurs? Est-ce que c'est conciliable avec l'idée que le bac professionnel, c'est surtout pour former des ouvriers hautement qualifiés? Et donc, ces demandes, notamment, alors peut-être que vous êtes dans un lycée qui forme plutôt des gens qui vont travailler dans l'artisanat ou dans des domaines un peu plus proches de ce secteur, où on a, enfin, j'ai rencontré des élèves qui disent « moi je veux créer ma propre entreprise ». Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas n'importe quels élèves. Hein, c'est-à-dire que souvent, la création d'entreprise, elle est énoncée par des élèves soit issus de milieux où les parents sont artisans ou parents sont plutôt secteurs, soit d'élèves pour lesquels l'entreprise, c'est une alternative à une forme de domination. Donc c'est un lien aussi à repérer par rapport finalement à une volonté d'émancipation, par rapport au milieu social dominant. Je me souviens d'un élève qui me dit « de toute façon, moi je voudrais être mon propre patron dans ce cas de figure parce que le marché du travail étant ce qu'il est, il vaut mieux être son propre entrepreneur que de subir les contraintes liées au marché. En plus, il était dans une, il y avait ses frères et sœurs qui, dont certains étaient dans l'intérim. Donc, ça a un sens, si vous voulez. Alors, question que vous posez, ça, je n'ai pas de réponse. C'est est-ce que le lycée professionnel peut former des futurs entrepreneurs? Je veux dire, là, voilà, question qui reste un peu en suspens. Il y a sans doute des expériences qui sont menées un peu quand on crée des enjeux dans certains établissements qui forment à la vente. Je pense à un particulier, à un établissement à Roubaix, où ils créent une mini-entreprise de façon à ce que les élèves apprennent, hein, voilà, la règle de gestion de technique. Sur le socle commun, c'est un autre problème. c'est là, si vous voulez, où on a un peu la difficulté qu'a l'institution scolaire, quand elle met en place quelque chose, à faire partager par les acteurs les enjeux et les finalités de ce socle. Quand le socle a été mis en place, c'était suite à la consultation, vous vous en souvenez, notamment des établissements scolaires, où ils avaient des questions, il fallait choisir 3 questions, il y avait débat, et c'est remonté au ministère, et ils ont dit, ben voilà, il faudrait que ce soit sur ces thèmes qu'on évalue les élèves. Le problème, c'est que le collège continue à être, comme je disais tout à l'heure, préparatoire, surtout pour le lycée. Et donc, la validation des compétences ou l'évaluation des compétences en termes de compétences n'a pas encore suffisamment gagné, si vous voulez, de légitimité pour que les enseignants se passent de la notation classique. Hein, je connais les élèves actuellement, ça reste encore, même s'ils passent un certain nombre de ils commencent à passer tout ce qui est certificat en langue, certificat aussi en informatique, l'essentiel c'est quand même la notation. Et donc, c'est ça la différence. Pourquoi les élèves du lycée professionnel disent voilà, quand on arrive au LP, je vois que je réussis, c'est parce qu'ils intègrent cette dimension de compétence qui n'est pas négative, au contraire, elle est positive, mais elle n'est pas encore entrée dans la culture au collège. Et c'est un exemple typique de comment on met en place quelque chose sans que pour autant ce soit approprié par les acteurs, ce qui fait qu'il y a... ça date pas d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent finalement où est le collège démocratique dès lors qu'on n'a pas encore intégré cette dimension de socle de compétence.
Excusez-moi, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je vais quand même y risquer. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir écouté Mérieux hier soir ou si c'est d'être de la région parisienne, mais je trouve que vous avez une vision édulcorée de la réalité du lycée professionnel. Déjà, je voudrais revenir sur le collège. Il me semble que le collège, sa finalité doit être d'être centré sur les savoirs, quand bien même il faut donner du sens au savoir. Et la problématique qu'on en découvre en LP, c'est qu'on continue de s'efforcer à orienter des gamins à 15 ans, alors que je crois qu'il est très, très, très difficile de parler d'orientation à 15 ans. Et d'ailleurs, on le voit bien, pour ceux qui réussissent à l'école, finalement, on reporte l'orientation 3 ans, voire 6 ans, voire 8 ans plus tard. Donc, ma question en lien avec ce que vous venez de présenter sur le lycée professionnel, est-ce que finalement l'objectif aujourd'hui qui est assigné au lycée professionnel, ce n'est pas uniquement de socialiser et que pour le reste, on fait avec et que ça manque singulièrement d'ambition sur le champ pédagogique?
On peut prendre une deuxième question et puis...
Est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée de décrochage et d'abandon? Et est-ce qu'on pourrait faire le rapprochement avec un éventuel abandon de certains enseignants, certains PLP? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas faire une typologie, comme vous l'avez faite pour les élèves, pour les PLP, entre des rapports pratiques aux pratiques, finalement, réflexifs, désimpliqués, intégratifs, évolutifs? Moi, c'est le genre d'enseignants que j'aime bien rencontrer, parce qu'ils existent, évidemment. Voilà. Et peut-être aussi, dans cette idée-là, le rapport que ces enseignants ont avec j'ai l'impression de voir souvent des enseignants au front. Est-ce que on pourrait parler des rapports qu'ils peuvent avoir avec l'arrière-garde ou avec l'état-major, que ce soit le chef d'établissement ou le corps d'inspection?
Alors je vais répondre à la première remarque. Je ne sais pas ce que vous entendez par connaissance édulcorée, présentation édulcorée. Je crois que ça n'est pas de l'angélisme. En tout cas, les lycées professionnels que j'ai fréquentés, on peut dire une vingtaine de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même des lycées qui finalement constituent une mosaïque de pratiques, mosaïque de difficultés aussi. Donc les difficultés, elles sont quotidiennes. Hein. Quand vous remarquez, par exemple, puisque la question notamment tout à l'heure que je parlais du décrochage, il n'y a pas que du décrochage. Quand vous remarquez que le lycée professionnel X, qui reçoit des élèves issus pratiquement du même milieu, et l'autre Y, vous avez les mêmes formations, vous avez les mêmes, finalement, unités de formation, les mêmes aussi structures de classe. Vous avez un abandon plus important dans l'un, vous avez un taux de réussite plus important dans l'autre. Vous ne pouvez pas dire que c'est seulement une affaire d'élèves et d'origine sociale. Vous devez faire l'hypothèse que c'est aussi les modes de mobilisation des enseignants. Et donc, le lycée professionnel, c'est pas seulement un lieu de socialisation. C'est le lieu de la socialisation articulés aux apprentissages. Un exemple très concret. Vous connaissez sans doute les élèves. Si vous interrogez les élèves sur qu'est-ce que les enseignants mettent quand ils parlent notamment de la valorisation, un élève, il ne respecte pas, si vous voulez, l'enseignant qui lui fait faire des activités trop faciles. Donc il réalise qu'une des manières de respecter l'élève, c'est d'être à la fois exigeant et compréhensif de sa difficulté. Et donc si ces enseignants réussissent avec leurs élèves, c'est aussi parce qu'ils sont capables de développer ce que j'ai appelé des ruses pédagogiques. Donc on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'angélisme, on est aussi dans quelque chose de l'ordre du détour qui permet de mobiliser des élèves. Et à mon avis, une des revanches que le lycée professionnel prend sur la filière générale et technologique, c'est quand il permet aux élèves de réussir au-delà aussi du lycée professionnel. Et donc d'aller, moi j'ai des étudiants, je vous en parlais hier, des étudiants effectivement qui sont en BTS ou en DUT surtout chez nous, qui sont DUT, qui sont très bonnes réussites. Donc on peut pas dire qu'ils ont passé le lycée professionnel seulement par une période d'occupationnel. C'est des apprentissages. Un autre exemple aussi, et ça parce que j'ai pas le temps de développer, il faut pas oublier que l'histoire de l'enseignement professionnel, elle est en lien avec l'histoire de l'enseignement technique qui a très longtemps imaginé la pédagogie par projet, qui malheureusement s'est perdue avec les IUFM et donc la formation des enseignants. Et donc la pédagogie par projet, elle nous vient d'où ? Elle nous vient aussi de la formation des adultes. Et j'ai rencontré des PLP qui sont en formation, qui ont suivi une formation, par exemple, en sciences d'éducation. On ne peut pas dire qu'en termes de professionnels, ils soient moins professionnels que les gens qui n'ont qu'une formation strictement disciplinaire. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas de l'angélisme, mais évidemment, j'aurais très bien pu dire, voilà, un jour, je me présente dans un lycée professionnel où on a mis des caméras partout parce qu'il y a de la violence, très bien, mais est-ce que ça nous fait avancer ? Ça existe, mais en même temps, dans ce lycée professionnel, il y a des élèves, des enseignants qui sont en réussite et plutôt positifs. Donc, le point important, à mon avis, quand vous dites la socialisation, c'est que c'est la socialisation plus les apprentissages. Et vous savez, pour terminer un peu sur ce point, c'est que les enseignants, ils sont très indulgents quand les élèves arrivent. Ils disent on ne va pas les noter de la même manière qu'au collège. Mais que très vite, comme il y a l'examen final, il va falloir essayer de descendre sur terre. C'est aussi des stratégies qui peuvent s'avérer efficaces. Alors effectivement, bon, tout n'est pas forcément efficace. Et on ne met pas la responsabilité, évidemment, les enseignants ne peuvent pas tout faire. Sur la question que vous dites, sur décrochage et abandon, l'enquête dont je parlais tout à l'heure, c'était une enquête, vous savez qu'en 99, il y a eu le programme Nouvelle Chance, qui a amené effectivement le ministère à faire des appels d'offres pour enquêter sur l'absentéisme, déscolarisation au collège, décrochage au lycée. Et à l'époque, on s'est posé la question suivante. Comme tout bon sociologue, question qu'on se pose au départ, pourquoi est-ce que tout d'un coup l'institution scolaire s'intéresse au décrochage ? Quelle définition elle en donne ? Et alors, ce qui était assez intéressant, c'est que le décrochage apparaissait comme la rupture scolaire, alors qu'il n'y a pas de définition cognitive, alors qu'on disait effectivement on peut être présent et absent en même temps. Et il y avait un fort discours qui associait décrochage et délinquance. C'est-à-dire qu'on voyait très vite qu'il y avait du contrôle social derrière ce type. Donc, bon, c'est pas très nouveau, mais en tout cas, c'est-à-dire la préoccupation du ministère n'est pas forcément celle de celui qui va faire une recherche, etc. Bon. Et donc, on s'est posé la question suivante. Si des élèves ne viennent pas, il faut comprendre, poser la question à l'envers, pourquoi des élèves viennent ? Et donc on a essayé de confronter l'expérience des élèves qui viennent, qui sont mobilisés, pour savoir quels sont les éléments qui expliquent, qui se mobilisent par opposition aux élèves qui ne viennent plus et qu'on a contactés par téléphone. Et on s'est aperçu, alors chose entre autres par exemple, c'est qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient quitté le lycée professionnel bien longtemps. La date qu'ils fournissaient quand on leur demandait à quel moment vous avez quitté, c'était longtemps avant l'officialisation. Alors qu'ils venaient encore en cours. Ce qui voulait dire que dans leur esprit, ils avaient déjà abandonné alors qu'ils étaient présents. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir que la comptabilité statistique ne révèle pas toute l'ampleur du phénomène qu'il faudrait effectivement anticiper. Alors, est-ce que les enseignants décrochent ? C'est ça, en fait, votre question. Ce qui est paradoxal, si vous voulez, c'est quand on voit les statistiques dont on dispose, c'est que c'est dans les lycées professionnels où les enseignants travaillent le plus en équipe, quand on compare avec d'autres établissements scolaires. En même temps, quand on les interroge individuellement, les enseignants, ils oscillent souvent en deux dimensions. La dimension du collectif et la dimension de l'individuel. Là où il y a le plus, si vous voulez, de capacité à réagir, c'est quand, effectivement, et je dis, c'est enfoncer une porte ouverte de le dire, c'est quand les équipes sont stables et quand les problèmes rencontrés avec les élèves sont traduits comme étant des problèmes professionnels et non pas des problèmes personnels. Vous voyez, c'est cette tension. Donc, dès lors que nous avons une institution qui peut être capable de soutenir les enseignants de façon à ce que les problèmes pédagogiques soient socialisés, il est d'abord, ça permet aux enseignants de dire ce qui ne va pas, ce qui va ou ce qui ne va pas, et ça permet surtout de déculpabiliser parce que c'est le collectif qui s'installe. Et là, le positionnement des inspecteurs, il est, pour les enseignants, il y a deux manières, si vous voulez. C'est pas très, il n'y a pas une seule manière de concevoir ce rôle. Il y a des enseignants qui disent effectivement qu'ils sont extrêmement bien soutenus par les inspecteurs, qui en général aussi, mais bien sûr, c'est des gens qui ont connaissent le lycée professionnel, et qui sont perçus comme des accompagnateurs plus que comme des évaluateurs. Et quand on évalue le travail du collectif et pas seulement le travail de l'individu. Il y en a d'autres, effectivement, qui disent, voilà, on a les inspecteurs. Mais parce que les inspecteurs, je pense, bon, ils sont un peu plus, ils disent finalement, ils sont éloignés des réalités du terrain. La réalité du terrain, c'est la classe. Et donc, l'ambiguïté, c'est parce que les inspecteurs sont dans une position qui n'est pas des plus simples. Hein. Je peux vous dire personnellement, j'ai pas travaillé sur les inspecteurs, mais j'ai eu l'occasion, parce que j'en connais quelques-uns qui exercent effectivement dans notre académie, et qui disent des choses individuellement, face à face, ils disent effectivement leurs difficultés par rapport au terrain, mais en même temps ils sont dans un rôle institutionnel, même s'il est amené à évoluer avec l'idée d'amener les inspecteurs à être plus dans une attitude de conseil, d'accompagnement, et pas seulement dans une attitude d'évaluation. Donc en fait, c'est pas tranché, quoi. Hein. Il y a des positionnements très très différents en fonction aussi de l'histoire des gens, comment si c'était un ancien collègue qui est devenu inspecteur, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu.
Je voudrais pas me sentir agressé, mais je le dis
vous
pas comme ça.
Pas.
Je le dis pas comme ça, mais je me dis que j'ai été enseignant pendant 20 ans avant d'être inspecteur, puis chef de travaux pendant une petite dizaine d'années, 7 ans. J'estime que le passage du métier de professeur au métier d'inspecteur ne m'a pas éloigné du terrain, bien au contraire, puisque je suis, à mon avis, enfin, je suis toujours dans la classe. Même si je suis derrière à regarder, je suis quand même derrière et dans la classe. Donc je suis pas, enfin je pense pas que l'inspecteur soit extérieur et soit plus près du terrain. Voilà. Hein, on a d'abord un rôle pédagogique d'accompagnement. Ouais. Vous l'avez dit, mais je pense que il est important pour nous d'avoir ce recul pour voir un petit peu comment. Avant d'être inspecteur, j'étais conseiller pédagogique. Donc ce qui veut dire que aussi j'étais dans la classe. Derrière la classe, enfin derrière les élèves, et je regardais le professeur évoluer. Donc en fait, je dirais l'évolution de mon métier, enfin oui, de mon métier, puisque pour moi c'est une continuité, c'est pas un changement brutal. Je pense qu'il y a une réelle continuité. Alors après, on a aussi des injonctions, puisque on parlait tout à l'heure, le collègue parlait des ambiguïtés qu'il y avait sur les discours de certains inspecteurs. Je veux bien comprendre, mais il y a toujours le problème d'interprétation. Et hier, on a fait plusieurs d'entre nous, on a fait des petites réflexions sur le fait que il y a le texte et il y a la manière dont on le met en œuvre dans l'établissement. Le rôle de l'inspecteur, c'est pas de faire de l'ingérence dans l'établissement, c'est d'accompagner à la demande, d'accord, et à la demande. Et je pense que notre rôle est plus est plus lié à un conseil qu'à l'évaluation, même si on est obligé d'évaluer à un moment donné. Mais moi, d'abord, mon rôle d'inspecteur, c'est d'abord de conseiller et d'aider. Maintenant, les choix stratégiques dans l'établissement, ça reste, puisque on a l'autonomie des établissements, ça reste de l'autonomie d'établissement. Voilà. Hein, en tant que référent d'établissement, référent inspecteur référent, sur deux ou trois ou quatre établissements dont j'ai la responsabilité, eh bien, il y a des pratiques complètement différentes et il y a des interprétations des textes complètement différentes.
Bien loin de moi l'idée de vous agresser, mais je voudrais quand même réagir à ce que vous dites sur la proximité de la classe. J'ai été inspectée plusieurs fois, ça s'est bien passé, très bien passé, donc bien loin de moi l'idée de vous agresser. Ceci étant, je trouve que quand on est inspecté, la classe n'est pas ce qu'elle est habituellement, parce que malgré tout, les élèves sont conditionnés, parce que malgré tout, il y a une ambiance de classe. Mais attendez, n'interprétez pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'avais conditionné ma classe, et je n'ai jamais conditionné ma classe. Mais automatiquement, quand les élèves savent qu'il y a au fond de la classe une personne extérieure intervenante, et que par hasard, en plus, s'ils apprécient l'enseignante, je peux vous dire qu'ils vont être super gentils pendant l'inspection, ou au contraire, avec un prof qu'ils apprécient pas, ils peuvent être... Donc je suis pas certaine que la représentation que vous avez sur une séquence soit vraiment la réalité du terrain. Bah, quand vous le voyez tous les 6 ans, si.
Je me permets d'intervenir parce que je pense qu'on dépasse le cadre de la formation, mais je vous donne un droit de réponse.
Je voudrais pondérer ces remarques parce que je crois qu'on peut pas non plus rester sur cette idée-là qui se plomberait un peu le débat. Je crois qu'effectivement, peut-être que les situations sont très variables d'une académie à l'autre, et ça, on en a bien conscience, que le potentiel des inspecteurs d'une académie à l'autre n'est pas le même. Moi, je reconnais que j'ai la chance d'être dans une académie rurale, Clermont-Ferrand, où les relations humaines sont très importantes. Voilà. Donc, certainement que je ne fais pas le même métier qu'un collègue qui est à Créteil, ça, j'en ai tout à fait conscience, voire même à Lyon, où j'exerçais avant, je vois bien la différence. Donc, je peux comprendre que vous soyez un petit peu frustré par rapport au rapport avec l'inspection, mais on peut pas en faire une généralité. Et le corps des inspections, dans sa grande majorité aujourd'hui, réfléchit davantage à ce que disait mon collègue, c'est-à-dire de l'accompagnement, de l'aide. Et on travaille beaucoup plus sur des réunions d'équipe, sur du soutien des enseignants, et Dieu sait si en ce moment ils en ont besoin, que sur de l'inspection brutale et catégorique. Et je crois qu'il faut qu'on ait tous une autre... On travaille tous dans la même maison et tous dans le même objectif qui est d'accompagner les élèves et de les aider à se construire pour leur vie future. On a tous cet idéal derrière nous, avec certaines injonctions les uns et les autres, que ce soit les chefs d'établissement, les inspecteurs ou les enseignants. On en a bien conscience, mais c'est quand même ce qui nous motive tous, et Dieu merci.
Peut-être faudra-t-il que nous fassions une action de formation sur les relations enseignants et...
Ouais. Je pense que ce que j'ai dit, c'est que il n'y a pas de clivage systématique, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est-à-dire il y a des pratiques très variables, même dans une même académie. L'académie de Lille, par exemple, il y a effectivement des inspecteurs plus dans la proximité, qui sont plus au fait, et où l'appréciation de quand ils viennent inspecter, c'est pas seulement l'inspection en classe, c'est aussi l'entretien, la discussion, donc toutes les dimensions que vous connaissez. Voilà, mais vous avez aussi d'autres postures, et donc dans une même académie. La question, à mon avis, et il n'y a pas de raison pour que ce soit différent des enseignants, c'est de savoir si les inspecteurs, s'il y a des lieux de communs, de réflexion et de travail collectif, aussi entre inspecteurs et enseignants, qui permettraient aussi de peut-être d'homogénéiser. Parce que le problème, et là je rebondis sur tout à l'heure, parce que ça revient effectivement sur l'idée d'autonomie des établissements, une des tensions aujourd'hui dans l'institution scolaire, c'est que les établissements ont acquis une certaine autonomie, mais c'est une autonomie qui a aussi des conséquences. Par exemple, alors je m'appuie encore sur les observations au lycée professionnel, je parlais des filières qui sont identiques, il y a des établissements lycées professionnels qui sont mieux dotés que d'autres en termes d'infrastructures, en termes d'outils, pour la même spécialité. Donc l'élève, il se dit, quand même, j'ai mon camarade, il est là-bas dans ce autre lycée, comment se fait-il qu'il y ait des différences? Et là, on réalise l'importance, parce que l'autonomie, c'est aussi une forme de dépendance, évidemment, personne n'est dupe. C'est les relations avec la région, les relations avec les autres partenaires. Et donc le système scolaire, il est toujours en train d'osciller entre une logique d'un état régalien où toutes les choses doivent être les mêmes un peu partout, et puis une logique de régulation qui repose obligatoirement sur des minorités actives qui sont les acteurs de terrain. Et là, c'est là où il y a effectivement des rapports de force que vous connaissez très très bien, où il faut réguler, il faut répondre à des attentes contradictoires, et voilà. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. C'est pas une remise en cause du travail des inspecteurs. Je sais aussi que on peut être aussi pris dans des enjeux qui ne dépendent pas de la volonté des gens, quoi.
Oui, je voulais répondre au collègue qui a eu la chance de voir Philippe Mérieux hier. C'est une conversation que j'ai souvent eue avec Philippe sur l'orientation des élèves en lycée professionnel. Je crois que les enseignants sont souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens qui sont passés par l'enseignement l'enseignement secondaire classique, l'université, et qui considèrent que hors l'école, il n'y a pas de salut. Moi, je sais par expérience, parce que ça fait 40 ans que je travaille dans divers lycées professionnels, qu'il y a des élèves qui, en fin de collège, n'en peuvent plus du collège, n'en peuvent plus, et que je crois qu'on les condamne pas au lycée professionnel. Je crois que c'est de les obliger à redoubler ou à rester en collège avec des 3 de moyenne et des autodévalorisations terribles, qui est une condamnation. Je crois que c'est pas aujourd'hui, surtout avec les passerelles et les possibilités de poursuite, je crois que ce n'est pas les condamner définitivement à des études courtes que de les envoyer en lycée professionnel. Je crois pas que les lycées professionnels soient des eaux. Je crois que nous y respectons les élèves, que nous les faisons évoluer, et pas seulement en termes de socialisation, parce que c'est pas incompatible. On peut et socialiser et instruire. Et honnêtement, tous les élèves qui en ont les capacités et la volonté peuvent faire des poursuites d'études. J'ai 3 bacs pro de l'an dernier qui sont actuellement à la fac, d'autres qui sont en BTS, d'autres qui sont entrés dans la vie active parce que c'était leur choix et qu'ils évolueront autrement en interne. Mais voilà, c'est souvent ce que j'ai voulu dire. On a eu cette conversation avec Philippe Mérieux. À l'époque, on avait créé les classes qu'on appelle DIMA maintenant, mais qu'on appelait PIM. Et oui, il était effaré qu'on puisse orienter des élèves, etc. C'est pas définitif, et je crois qu'on les condamne pas aux galères.
Oui, merci. Juste pour l'inspection, donc je voulais expliquer qu'au niveau des lycées agricoles, donc ce sont les directeurs d'établissement qui notent les enseignants. Donc les inspecteurs n'ont qu'un rôle de conseil. De toute façon, d'une manière générale. Le travail, la mission de l'inspecteur est amenée à évoluer. Et pour ce qui concerne les inspections conseils à l'agriculture, pour l'instant, elles se déroulent sur le mode individuel. Donc ils viennent donner conseil à un enseignant. Et j'espère que ça va évoluer dans la bonne direction, à savoir qu'ils vont venir voir le travail des équipes. Parce qu'effectivement, Monsieur Delab a insisté sur le collectif. Si on se limite, si on se cantonne en tant qu'enseignant à avoir un parcours individualisé dans notre enseignement, ben c'est la fin. Donc il faut vraiment travailler en partenariat avec les collègues, en équipe, de manière à proposer des solutions collectives, ce qui n'empêche pas un travail individuel, mais c'est une articulation avec le collectif. Et donc j'espère que l'inspection va évoluer dans ce sens-là, de venir voir les travaux collectif proposé par des équipes. Et je pense que là, on changera la donne un peu dans la relation, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de blessures, de souffrances, de stigmatisation. Hein, on a l'impression d'être, quand on est à l'éducation nationale, surveillé. Donc, on va trouver la faute là où ça va pas, etc. Donc, à l'agriculture, je vous rassure, ça fonctionne pas comme ça, mais j'espère qu'il y aura une évolution dans le bon sens, aussi bien dans l'enseignement agricole que pour l'éducation nationale, en confiance. Voilà.